That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
C'est l'heure de l'apéro.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
La radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophonie. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'apérophonie de ce mardi 26 mars. Nous sommes ce soir en compagnie de Martin Givor, membre du collectif artistique Equinox, dont nous allons reparler car il ne vous est peut-être pas familier. Et ces jours-ci, il nous prépare un ensemble de réjouissances et de pratiques participative au cœur du quartier Chaurier-Berria, donc dont nous allons parler pendant l'émission. Il y aura aussi, dès que Hugo arrive, une petite chronique sportive dont je ne vous dévoile pas tout de suite le thème. Et Kylian, notre stagiaire de 3e, est aussi au micro. Bonsoir Kylian.
Bonsoir.
Donc je remercie également Marty à la technique.
Bonsoir.
Qui va nous préparer ce soir une soirée exceptionnelle après l'apérophonie, puisque The Hacker et Emeric Ponsard du bar Le Keep It Weird seront aux platines ce soir avec toi pour leur permettre de passer une super soirée dans nos studios.
Exactement. Et de 20h à 23h, ce sera Weird Zone et ils vont nous faire une rétrospective de tout ce qu'il faut avoir entendu depuis les années 70, mais dans leur style sombre, techno, électro, comme vous connaissez, bien entendu. Une émission un peu spéciale, ouais, qu'on est très content de faire, donc c'est à 20h. Ouais.
Autant dire un vaste et riche programme, mais il y a également un vaste et riche programme ce week-end du côté de Saint-Bruno. Et je me tourne pour en parler vers Martin, du coup, qui est aussi doctorant. Il vient de rendre sa thèse, donc il est, je suppose, très heureux et soulagé à l'université Stendhal.
Ah, j'ai pas le jingle libéré-délivré, c'est dommage.
ce serait de bon augure.
Tout à fait. Et voilà, mais déjà présenté un peu, peut-être pour nos auditeurs, ce collectif Equinox, et puis expliquer qu'est-ce qui en est à l'origine, quelle est l'envie derrière ce projet collectif. Je crois que vous êtes trois, c'est ça ?
Quatre.
Quatre ?
Alors, en fait, oui, on est quatre. Quatre jeunes artistes chercheurs avec un parcours qui est passé par l'université, l'enseignement supérieur dans des licences ou des masters en art de la scène et aussi avec des pratiques artistiques à côté qui nous accompagnent depuis l'adolescence ou globalement ou plutôt. Le collectif Equinox, en gros, c'est un collectif interdisciplinaire au sens où entre nous, on est quatre, mais on a tous des spécialités ou des affinités avec des arts un peu différents, même si on a tous un lien assez profond ou assez ancien avec le théâtre. C'est un peu notre culture commune, en quelque sorte. Mais depuis ces temps-là de la culture commune du théâtre, on a tous fait nos chemins et on est tous partis un peu, pour certains, vers la danse. Pour d'autres, surtout vers l'écriture. Donc l'écriture, à la fois l'écriture scénaristique, donc filmique, mais aussi l'écriture plus dramatique en théâtre. Donc on est un espèce de collectif comme ça, avec artistiquement, disons, ces influences qui viennent du théâtre, de la danse et beaucoup de l'écriture. Ensuite, on est aussi un collectif qui se caractérise par des approches artistiques, mais aussi para-artistiques, au sens où on met aussi au cœur de nos activités des actions qui tournent plutôt autour du Qigong, la pratique du Qigong, qui est une forme de pratique corporelle et méditative chinoise, mais aussi des pratiques en lien avec l'hypnose ericksonienne. Donc à des fins artistiques, mais pas que, mais aussi d'accompagnement de la personne. Donc c'est aussi, dans notre sac, on utilise un peu des outils venus de toutes ces disciplines-là. Après, quant au projet du collectif, donc nous quatre, on s'est rencontrés à l'université, en fait. On s'est rencontrés à l'université, mais aussi dans une formation au jeu d'acteur à la Comédie de Valence. Et à partir de ces rencontres-là, on a eu des envies de création, de partage ensemble. Et ça a donné lieu notamment à des réflexions. Ce qu'on avait envie de partager ensemble, c'était des réflexions presque formelles, en fait, autour de quelles étaient les formes artistiques qu'on avait envie de déployer. Donc, bien sûr, des spectacles, la dimension un peu spectaculaire, un peu classique du théâtre. On crée des spectacles qu'on présente sur des scènes à des publics. Mais on s'intéressait aussi à la dimension presque plus politique des pratiques artistiques, au sens où quelle place elles ont dans le champ public, dans l'espace public, à qui elles se destinent, mais aussi, donc ça c'est une dimension plus politique, mais aussi une dimension presque anthropologique ou une dimension expérientielle, on va dire, au sens où comment est-ce que les pratiques artistiques sont des outils qui nous permettent de nous expérimenter nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, qui nous permettent d'approfondir par l'expérience sensible, notre expérience du monde. Et donc, ça, c'était... On cherchait, du coup, des formes qui allient à la fois un peu la dimension spectaculaire, qui nous était chère, créer des spectacles, ou des formes qui, visuellement, esthétiquement, sont travaillées, mais aussi des formes qui soient des formes à vivre, de l'intérieur, donc des ateliers, ce genre de pratiques.
Et donc, ça passe certainement par le fait d'abolir ou de tenter de casser un peu la distance entre la scène, puisque vous venez tous plus ou moins de la dimension des arts de la scène, et le monde des spectateurs, en les appelant à participer et à s'engager dans les expériences auxquelles vous les conviez.
Exactement. Cette dimension-là, de casser cette espèce de frontière, ça se joue pour nous à différents endroits. À la fois à l'endroit du processus de création lui-même. Donc quand on mène un projet de création, comment est-ce que dans le processus, on n'est pas seulement isolé dans la boîte noire du théâtre, en quelque sorte, mais comment est-ce qu'on arrive à s'ouvrir au territoire dans lequel se déroule la création elle-même, et à la fois dans les produits, en quelque sorte, des processus de création, dans ce qu'il advient au terme, comment est-ce qu'on imagine des formes dans lesquelles les spectateurs ne sont pas toujours assis à observer ce qui se passe, mais peuvent aussi prendre part activement au processus, aux ateliers, aux spectacles qu'on est en train de créer.
Et transformer, du coup, l'expérience esthétique en train de se vivre.
Exactement, au sens où esthétique, en fait, si on prend l'origine grecque du terme, c'est aesthésis, c'est la perception. Donc une expérience esthétique, c'est une expérience de perception pour nous. Donc c'est pour ça qu'on crée plus des dispositifs ou des expériences ou des traversées. Et c'est ça qu'on vient proposer aux spectateurs, c'est comment est-ce qu'on arrive à rentrer à l'intérieur d'un dispositif qui s'expérimente activement de l'intérieur et qui vient travailler vraiment la perception du monde, la perception de l'environnement, perception du corps, etc. Donc c'est vraiment à cet endroit-là qu'on essaye de créer ou de travailler.
Bah, on est déjà au cœur du projet que vous proposez avec, du coup, ces pérégrinations infraordinaires, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, justement, se placer au niveau de la quotidienneté, du vécu en micro-local, à l'échelle d'un quartier, etc., pour saisir les habitudes. Je crois que vous parlez de rituels des habitants, et pour mieux comprendre... Comment ça se passe pour eux, mais c'est pas une compréhension de chercheurs en sciences humaines, c'est vraiment une façon pour vous de ressaisir ça et d'en faire une expérience artistique et finalement de proposer une création. Donc comment ça se passe finalement de la phase de recueil à celle ensuite de proposition d'ateliers ou d'expérience artistique? Comment s'articulent les deux phases ?
Alors, dans le temps. Je dirais dans le temps d'abord, parce que le projet de création lui-même, c'est quelque chose qui a commencé en octobre. Le processus, la résidence de création officiellement, dans les locaux, en tout cas, que la ville de Grenoble nous a mis à disposition, a commencé en octobre. Donc, depuis ce temps-là, en fait, on organisait des week-ends, en fait, réguliers, chaque mois, mensuels, avec un groupe de 5 amateurs qui nous ont rejoints sur le processus de création. Et chaque week-end, on procédait à des formes d'enquêtes. Alors, ces enquêtes ont pris différentes formes. Ça a pu être des entretiens réalisés avec des habitants. Ça a été beaucoup de flânerie ou de marche ou de déambulation à l'intérieur du quartier Chaurier-Berria, qui était le quartier qui nous intéressait. À ces explorations-là, qui étaient vraiment dans les lieux, pour le coup, se mêlaient toujours des explorations qui étaient plus à partir d'exercices d'improvisation théâtrale, à partir d'exercices d'improvisation dansée. Et on a toujours mêlé dans chaque week-end, en fait, ces deux dimensions-là, jusqu'à peu à peu essayer de faire des ponts ou de tester des choses. On a beaucoup testé des liens qui marchaient, des liens qui ne marchaient pas, entre nos pratiques artistiques et les échos ou les choses qu'on entendait du quartier. Donc ça a été la première phase du processus de création, de s'imprégner des ambiances tout en gardant en nous, en studio, en profitant de la dimension presque laboratoire d'un studio, de garder un pied dans nos pratiques d'improvisation et de création.
Et, oui, vas-y, excuse-moi.
Et c'est ensuite où petit à petit, on a commencé à trouver des liens ou à imaginer en fait que le processus que nous-mêmes, on était en train d'expérimenter, donc à travers les outils de l'écriture, de la danse, de la marche et ces choses-là, comment est-ce qu'on pouvait recréer des dispositifs expérientiels à proposer à des spectateurs pour les amener à revivre en quelque sorte ou à réexpérimenter les choses ou les événements qu'on avait, les phénomènes que nous on avait pu observer ou sentir pendant le processus de création.
Donc il y a deux phases, il y a ce côté à la fois, c'est pas seulement un recueil d'impressions ou de sensations, c'est aussi des pratiques qui sont liées à cette expérience d'écoute du quartier et de finalement vivre à son rythme, en son lieu, etc. Et en fait, à partir de cette inspiration, vous proposez ensuite des expériences multiples dont on peut parler. D'ailleurs, si tu peux me dire un peu quel est le programme que vous proposez pour les jours à venir. Mais peut-être que ça, on va en parler parce que ça fait déjà 10 minutes que nous échangeons. Et on va mettre peut-être un peu de musique pour proposer une petite pause à nos auditeurs.
Bon, allez, pour rebondir, moi j'avais une question.
Vas-y, vas-y.
Tu parlais des expériences qui n'ont pas marché. Alors, on parlera des expériences qui ont marché après la pause, ok.
Ouais.
Bah, alors, t'aurais un exemple de quelque chose qui n'a pas marché, donc on ne verra pas de toute façon.
Oui. Alors, dans les expériences qui n'ont pas marché, si c'est ça la question, des improvisations. En fait, ce n'est pas vraiment des expériences. Ce n'est pas toujours des expériences qui n'ont pas marché, mais c'est plutôt des... Bon, en fait, dans les différentes propositions qu'on avait, on avait des propositions de marche dans la ville. Et au début, ces propositions de marche dans la ville, on les a imaginées comme des marches avec des successions de scènes, quelque part, d'événements qui se dérouleraient. Donc, pour un petit groupe de public, 10 spectateurs qui déambuleraient dans le quartier.
Un coin de rue, quand soudain.
Exactement. Et le fait est que la disposition architecturale du quartier et le matériel d'improvisation qu'on avait créé jusqu'à présent ne se prêtait pas toujours ou pas exactement, disons, aux sensations qu'on essayait de créer pour le spectateur. Et en quelque sorte, on renouait un peu trop à notre goût avec la dimension un peu spectaculaire de vous êtes là, vous marchez et vous regardez des scènes de spectacle. Et en fait, pour la marche, on avait envie d'autre chose. On avait envie de partager l'expérience d'une marche collective dans un quartier, etc. Du coup, il fallait placer le public à un autre endroit. Du coup, on a laissé tomber toutes les improvisations qu'on avait créées à ce sujet-là pour changer de forme.
Un autre endroit, mais ce sera Chaurier-Berria quand même. On en reparle après la pause.
Voilà, bah c'est bien lancé. Et justement, la pause musicale, puisqu'on peut l'annoncer, vous savez qu'en ce moment se déroule le festival des Détours de Babel dans l'agglomération grenobloise et que Campus Grenoble en est partenaire. Ça se déroule jusqu'au 7 avril, par chez nous. Et je vous propose tout de suite d'écouter un morceau de Chassol, extrait d'un album sorti en 2015 qui s'appelle Big Sun. Et le morceau, c'est Reich et Darwin, sorti donc sur Tricatel. Voilà, et donc on s'écoute ça sur campusgrenoble.org.
C'était Chassol, Reich and Darwin. C'était sur Campus Grenoble 90.8. Et donc Pierre, ce sera au Festival des Détours de Babel.
Les Détours de Babel le 2 avril, donc la semaine prochaine. Ne manquez pas ça, ça s'annonce exceptionnel. En plus, Chassol a l'air d'être quelqu'un de vraiment charmant, ce qui ne gâte rien. Et il est vraiment passionné de musique et il le transmet avec beaucoup de talent. Comme on peut l'entendre pour les amateurs de France Musique dans certaines chroniques qu'il peut y produire. Donc vraiment quelqu'un d'intéressant. Voilà, et pour aussi préciser qu'il y a des places à gagner pour ce concert, pour tous ceux qui ont envie de s'y rendre. Et le mot de passe, c'est donc Piano Voyageur, à envoyer à concours@campusgrenoble.org. Voilà. Et donc je vais reprendre le fil de l'émission avec mon invité Martin, donc pour parler depuis le début, là on parle d'une proposition artistique qui s'est formée depuis l'automne là et qui arrive dans sa phase décisive et d'aboutissement avec une proposition que vous offrez au public intéressé, aux gens qui ont envie de vivre des expériences changeant de l'ordinaire. Et justement, qu'est-ce qui vous a intéressé? Parce que je crois que si tu peux nous parler un peu de la thématique de ces pérégrinations, vous avez axé ça autour du rituel. Et pourquoi ce choix en fait? À quoi ça renvoie dans votre esprit?
Alors, ça a été justement l'objet de beaucoup de discussions entre nous, avec les amateurs qui étaient avec nous, pour entendre qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par le terme de rituel. Parce que quand on envoie le mot comme ça et qu'on réfléchit, qu'on envoie toutes les idées, en fait, ça renvoie un spectre assez large d'expériences. Alors, la notion de rituel, en fait, elle trouve un premier écho dans le titre un peu biscornu de notre événement, les pérégrinations infraordinaires. En fait, l'infraordinaire, pour nous, c'est tous ces gestes qu'on ne voit pas. C'est une expression qui est héritée de Pérec, en fait, de l'auteur. L'infraordinaire, c'est toute cette dimension de notre vie qu'on ne voit pas, des gestes auxquels on prête à peine attention, et plus ou moins attention, et qui tissent pourtant notre expérience du monde. Donc c'est comme une espèce de toile qui à la fois forme qui on est, forme la relation qu'on entretient avec le monde. Donc ces deux mouvements étant intimement liés, bien sûr. Donc partir et enquêter les rituels des habitants d'un quartier, ça veut dire enquêter tous ces petits gestes qui, pour eux, leur offrent ou leur permettent d'avoir une relation au territoire qu'ils habitent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'un rituel, c'est souvent, si je prends les plus évidents, ce sera le café dans un bar, ce sera faire son marché le samedi au marché Saint-Bruno, au marché de l'Estacade, dans des endroits comme ça. Ça pourra être voir des expositions dans les petites galeries du quartier. Ça pourra être aussi, pour quelqu'un sans-abri, une certaine trajectoire dans l'espace, la poste, la bibliothèque pour faire son courrier, etc. Bon, des retrouvailles entre une certaine communauté qui se retrouve dans un certain bar ou dans un certain lieu du quartier. Donc c'est toutes des petits gestes ou des temps par lesquels les gens viennent à la fois se connecter au territoire Chaurier-Berria. Donc ça peut être un bar, ça peut être une place, ça peut être le parc Marliave. Donc c'est toujours des espaces dans lesquels, qui sont déjà là, et qu'on vient habiter d'une certaine manière pour se relier à eux. Par exemple, le parc Marliave, se relier au calme du parc Marliave, pour s'en nourrir. Donc le rituel, c'est un événement qu'on va faire, ou des gestes qu'on va faire pour venir capter ou se nourrir de l'énergie d'un lieu en quelque sorte. Mais c'est aussi des événements par lesquels on va créer un territoire qui sera un territoire relationnel, donc créer une communauté humaine, relationnelle mais aussi à soi. Donc créer une enveloppe autour de soi pendant laquelle, c'est aussi le soir chez soi, on rentre, on se pose sur son canapé, un rituel du canapé, et peut-être de la bière sur le canapé, ou de je sais pas, bon bref, un rituel de canapé, on se pose. Et alors là, de suite, on crée notre espèce d'enveloppe, de cocon, d'espace, et on vient se ressourcer, par exemple, dans cet espace-là. Donc les rituels qui nous ont intéressés, c'est tous ces gestes par lesquels, à la fois, on vient se connecter à un territoire et on vient soi-même créer comme ça une enveloppe ou un espace, un petit milieu pour soi.
Donc c'est un ensemble de micro-attentions que vous avez portées au comportement des habitants et jusque dans leurs gestes les plus intimes, peut-être les plus inconscients, et peut-être que justement ils ne saisissaient pas tout l'intérêt et tout ce qu'on pouvait retirer comme richesse de ce quotidien là finalement. Et c'est quel est votre j'allais dire peut-être votre envie, mais j'attends que tu réagisses là-dessus, c'est que ces gens avec qui vous avez échangé pour constituer votre projet, ils se réapproprient, en tout cas ils conscientisent un peu plus cette relation au territoire, et ils arrivent un peu mieux à articuler l'intime et le collectif, ou alors à faire que, justement, tu parlais de communauté, eh bien ce commun devienne en jouant sur des lieux précis que vous allez investir dans vos ateliers, quelque chose de vécu vraiment.
Oui, alors il y a un peu de choses dans ce que tu dis. Il y a à la fois la partie avec les gens qu'on a interrogés eux-mêmes, donc les gens avec qui on a discuté, donc des dimensions rituelles, de leurs dimensions rituelles, etc., de ce que la chose voulait dire pour eux. Pour ces gens-là, nous, on est toujours un peu, tu sais, dans la situation de l'ethnographe sur le terrain. Il se nourrit de la richesse des gens qui sont là, qui veulent bien lui partager leur expérience de vie, etc. Et ensuite, lui, quand il vient écrire ou quand il vient créer quelque chose à partir de ces gens-là, il se sent toujours comme un peu endetté, finalement, vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'on ne peut pas leur rendre. Ou ce que nous, on va créer derrière, ça ne va jamais... Il y en a qui vont s'y retrouver, il y en a qui vont se dire quel rapport avec ce que je vous ai raconté. C'est possible aussi, parce que nous, on a notre écart aussi, notre espace d'écart et de liberté dans ce qu'on a fait avec. Donc ça va parler, on espère que ça va parler à ces gens, mais ça va leur parler plus ou moins. En tout cas, ça leur aura permis, pendant le temps de la discussion, effectivement, de reporter attention à des choses qui, peut-être, eux, ne considéraient pas tant que ça. Après, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes âgées qui, justement, quand on les interrogeait, nous parlaient beaucoup de la dimension de justement, quelle était la place de la dimension rituelle de leur vie et comment est-ce qu'elles voyaient cette dimension rituelle prendre de l'importance avec l'âge, en quelque sorte, au sens où avoir certains rituels, ça devenait comme quelque chose qui les ancrait ou qui construisait leur quotidien et leur relation au monde dans quelque chose qui était peut-être plus fragilisé ou plus fatigué, ou etc. Donc, pour ces personnes-là, c'était souvent les rituels les plus ordinaires étaient des choses très importantes. Tandis que pour peut-être des personnes plus jeunes, la bière le soir sur la dragonne de la place Saint-Bruno ou le café du matin, bon, c'était ok, ils y prêtaient pas plus d'importance que ça.
C'est quelque chose de quelque part banal, mais qui reprend quand on y pense et quand on s'y penche avec un peu d'attention, aussi une part de saveur. Et voilà, et donc bon, c'est un peu quelconque, hein, ce que je dis quelque part, mais c'est peut-être à ces micro-attentions-là que vous avez voulu, sur lesquelles vous avez voulu porter la focale.
C'est un peu ça, et c'est un peu ça à travers ce mot d'infraordinaire, en fait. L'infraordinaire, c'est effectivement, c'est toutes ces choses auxquelles on prête peu attention, et qui pourtant, quand on les regarde de plus près, nous disent beaucoup de l'architecture presque de notre quotidien ou du tissu quotidien dans lequel se tisse notre vie, en quelque sorte. Parce que c'est toutes des choses auxquelles qu'on regarde peu et qui pourtant viennent nous construire, représentent un temps, même en termes de durée, représentent un temps très important. Le temps passé au café, le temps passé au marché, le temps passé sur le canapé, le temps, etc. etc.
Et est-ce que pour toi, pour vous, parce que spontanément, comme ça, derrière l'idée de rituel, on a plutôt tendance à imaginer quelque chose qui irait contre la part, justement, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous dans une démarche artistique, et donc peut-être, quel est l'écho entre cette dimension rituelle et la sensibilité qui est la vôtre, et à partir de quel moment, en fait, il peut y avoir ou pas une correspondance entre le rituel qui constitue plus ou moins tous nos vies et la créativité qui pour vous est essentielle, j'imagine, et En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a une part de ritualisation qui est indispensable à la créativité, ou est-ce que tu penses qu'il y a une espèce d'antithèse qui est insurmontable entre les deux ? Comment ça s'articule finalement ?
Alors, surtout pas d'antithèse, en fait. Au contraire, on a plutôt travaillé sur des liens. Un des premiers liens entre notre activité artistique et la dimension rituelle ordinaire des vies, c'était de se dire, mais en fait, le spectacle en lui-même, c'est un sacré rituel dans nos sociétés. Et même le spectacle d'aller au théâtre, pour certains, pour certaines classes, entre autres, c'est un rituel également. Donc, il y avait en fait une dimension rituelle à interroger dans l'activité artistique elle-même. Mais de là, en fait, il y a deux liens, deux pistes qu'on a essayé de suivre. À la fois un rituel, on a essayé, même si c'est jamais vraiment possible, de distinguer un rituel ordinaire d'une habitude. Alors, où est-ce qu'on a essayé de poser cette espèce de frontière, qui n'est jamais une frontière très rigide, parce qu'on passe rapidement de l'un à l'autre. Mais en tout cas, si on a essayé d'y réfléchir, un rituel, pour nous, c'était plutôt quelque chose à travers lequel on essayait vraiment de venir se nourrir d'une ambiance, d'un quartier, d'une émission, etc. Il y a vraiment cette dimension de je viens chercher, me connecter à quelque chose pour m'en nourrir. En cela, le rituel, c'est pas quelque chose qui ne serait pas important ou qui serait complètement anodin. Il y a une valeur, si tu veux, une valeur esthétique. Au sens de perception, il y a quelque chose à percevoir dans un rituel. Le goût du café, la présence des autres, le caractère moelleux du canapé. Il y a toujours une perception qui va être au cœur du rituel lui-même. Et le rituel vaut pour son caractère esthétique, pour la perception dont il va nourrir la personne qui le fait. Donc même une ambiance de marché, il y a des gens qui vont sur le marché juste parce qu'ils aiment l'ambiance du marché. Donc là, c'est bien qu'il y ait une valeur esthétique dans le rituel lui-même.
Avec des effets produits sur la personne qui le vit, alors à différentes échelles et intensités, selon le rituel considéré. Tu parlais de rencontres, il y a effectivement des rencontres qui peuvent bouleverser un parcours de vie. On n'est pas à l'échelle ni du canapé ni du café, mais éventuellement... un bel après-midi sous les arbres dans le parc Marliev, ça peut aussi faire beaucoup de bien.
Exactement.
Et voilà, c'est cette perspective qui est intéressante en termes, je crois que vous employez ce terme dans vos ateliers d'écologie, c'est-à-dire d'attention au milieu, à l'environnement, qui vient tisser aussi l'expérience qu'on peut nouer avec une communauté.
Exactement. La dimension écologique, ça c'est un aspect qui est au travail en quelque sorte dans tous les ateliers, toutes les propositions en fait des pérégrinations, et qui sera notamment débattu lors du ciné-débat. Peut-être que pour clarifier un peu le sens qu'on entend par écologie pour les gens qui nous écoutent, écologie on entend au sens scientifique en quelque sorte de science ou d'études des relations entre des organismes vivants, ici des êtres humains, nous, et leur environnement. Comment est-ce qu'un environnement influe un organisme humain dans sa croissance, dans son évolution, dans sa vie, et retour ? Comment est-ce que l'individu, l'organisme, ici les habitants, viennent influer, en quelque sorte, ou influencer la construction ou le devenir du quartier lui-même ? Donc cette dimension écologique, elle est présente dans tous les ateliers. Et en fait, ça, c'est une dimension du rituel qui est très importante pour nous, qui est de se dire, dans quelle mesure, en fait, est-ce qu'un rituel est nécessairement accroché ou attaché, issu d'un espace particulier. Est-ce que, si on pense par exemple à quelqu'un qui ferait son yoga, par exemple, ou sa course, quelqu'un qui aime bien courir ou qui aime bien faire son yoga, je pense à ces rituels-là, je pourrais en prendre d'autres. Bon, est-ce que si je déménage, je vais réussir à, si je change d'espace, je vais réussir à retrouver des endroits où courir, des endroits où faire mon yoga, dans les différents espaces où je vais aller, dans les nouvelles espaces où j'irai. Si je change de ville, si j'ai plus pour courir la vue sur les montagnes, est-ce que j'irai quand même courir ? Est-ce que si j'ai plus tel chemin de terre où j'aime bien aller, est-ce que j'irai quand même courir ? Est-ce que si le parc Marliev, par exemple, si le parc Marliev est un espace où j'aime me ressourcer, est-ce que je peux me ressourcer identiquement, avoir mon même rituel du samedi après-midi, un peu comme tu le disais, au parc Mistral ? Oui ou non ? Les deux ambiances sont extrêmement différentes.
Voilà, donc, c'est pas du tout les mêmes types d'espaces.
Pas du tout.
Il y en a un plus intime, plus, exactement, disons, pas confidentiel, mais ouais, que le parc Mistral qui est un lieu de passage. Et du coup, ça implique pas les mêmes relations à l'environnement.
Exactement. Et c'est, voilà, exactement ici où on arrive en disant un rituel est une expérience ou un phénomène toujours territorialisé. C'est à la fois un individu qui le met en œuvre dans un espace, et à la fois c'est un espace qui lui permet à l'individu de le vivre. L'espace a des caractéristiques esthétiques sensibles, comme le calme, ou dans le parc Marliave, la dimension intime, qu'un autre espace n'a pas. Le parc Paul Mistral, en dépit du fait que ce soit deux parcs. Donc il y a certains rituels qui sont toujours accrochés, en quelque sorte, à certains espaces qui les permettent.
Bah écoute, je te propose, après ces échanges intéressants, qu'on poursuive après une deuxième pause musicale. Et Hugo vient d'arriver en studio, je le salue, il va nous proposer sa chronique dans quelques instants. Et en attendant, on va s'écouter un deuxième groupe qui passera dans le cadre des Détours de Babel. Et donc il s'agit de Pix Vae, un combo de Lyon et qui marie... des musiciens français et des musiciens colombiens pour renouveler la tradition de la cumbia avec une énergie entre jazz et rock. Et là, le morceau s'appelle La Fuga sur Radio Campus 90.8. En mi tierra espera, en mi tierra espera.
Entre un bar y pequille y su ritmo misterioso, entre un bar y pequille.
Et voilà, Pixvae sur les 90.8 de Campus Grenoble avec la Fuga.
Et tout à fait, qui seront en concert à la Bobine le 6 avril. Et on fait gagner des places, la vie est bien faite, on fait gagner des places à Radio Campus pour ce concert. Si le morceau vous a donné envie de bouger, bah vous pourrez continuer à danser dans la belle salle de la Bobine le 6 avril en envoyant le mot de passe carburant polyrythmique à concours@campusgrenoble.org.
On a bien dit carburant polyrythmique.
Voilà.
À concours@campusgrenoble.org et on tolère les fautes d'orthographe sauf pour les mails, sinon ça marche pas. Hein,
c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, eh bien, après la musique, et il y en aura aussi d'ailleurs pendant ce temps fort de sortie de résidence dans le cadre donc des pérégrinations infraordinaires que tu organises avec tes camarades Martin. Donc on revient sur le propos de cette émission, c'est-à-dire la présentation de ces jours qui vont venir. Ça commence jeudi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme maintenant qu'on a un peu développé la thématique principale?
Oui, alors au niveau du programme, c'est construit sur trois types d'expériences ou de propositions différentes. D'une part, des ateliers. Ensuite, une déambulation qui se fera dans le quartier Chaurier-Berria et enfin un ciné-débat qui sera organisé au Théâtre de Poche. Peut-être que je présente un peu les...
Oui, tu peux m'en dire plus sur les ateliers éventuellement.
Oui, ouais. Alors au niveau des ateliers, on ouvre le bal le jeudi soir à 18h avec un atelier qui s'appelle L'encre au bout des songes. L'encre au bout des songes, c'est un atelier qui se déroule dans le Théâtre de Poche lui-même et qui va, pour le coup, utiliser les outils issus plutôt de l'hypnose ericksonienne ou presque de la sophrologie, pour ceux qui connaissent, dans lequel, en fait, les participants seront invités à, au gré d'une musique, pour le coup, d'un musicien de hang qui sera là et d'un violoncelliste, de se lancer dans une aventure d'imagination, en quelque sorte, à la recherche d'ancrage. Comment est-ce qu'on peut, soi-même, avec son imagination, imaginer des ancrages positifs pour nous ressourcer, pour nous réancrer, pour regagner confiance. Tout ça à travers une forme de méditation guidée ou de voyage imaginaire guidé au son de la musique, etc. Donc ça, c'est une première forme un peu rituelle qu'on a essayé de créer, d'imaginer. Ensuite, on a une deuxième forme qui suit, qui s'appelle sofa routine. Pour le coup, le sofa routine au sens...
Oui, tu parlais du canapé tout à l'heure.
Je parlais du canapé, oui. Le sofa routine, c'est au sens de l'entraînement, en fait. L'entraînement, une espèce de routine d'entraînement, pour ceux qui connaissent. La sofa routine, l'idée, c'était de se dire, bon, après toutes ces histoires de gens qui se prélassent en canapé et leur rituel, c'est de se poser dans le canapé à la fin de la journée, on s'est demandé, mais en fait, quand on n'a pas beaucoup d'espace, qu'on n'a pas envie de sortir ou qu'on n'a pas l'argent de prendre une carte de sport ou qu'on n'aime pas courir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour entretenir son corps et se libérer des tensions avec un canapé? Donc dans un espace restreint. Donc l'atelier sofa routine, c'est une expérimentation, ça dure 3 quarts d'heure. Avec 4 personnes, plus deux accompagnateurs, 2 organisateurs. Et on est amené comme ça, à travers un support visuel, à explorer différents enchaînements physiques sur un canapé, pour étirer le corps sur un canapé, et à la fois pour essayer de libérer l'esprit aussi, essayer d'évacuer les pensées de la journée. Tout à partir d'un canapé, c'est quelque chose qui peut être refait chez soi. Il y avait cette idée de se dire, on peut créer des rituels qui sont reproductibles. Donc le sofa routine, bon, ce sera quelque chose de reproductible. Ensuite, le lendemain, le vendredi, à 14h et 20h, là, on a un atelier qui s'appelle l'Entremonde. Le sofa routine est aussi proposé le vendredi matin à 10h, mais à 14h et 20h, on a un atelier qui s'appelle l'Entremonde, dont je ne peux pas vous dire grand-chose, si ce n'est qu'il commence dans le hall du Théâtre de Poche. Et ensuite, l'idée, c'est que ce soit un atelier immersif. Donc, on va essayer de dérouter un peu les sens des participants qui seront avec nous. À travers cette déroute un peu sensible, on cherche toujours la même chose, à savoir comment est-ce qu'un rituel qu'on va proposer va pouvoir essayer de ressourcer ou régénérer les gens qui y participent. Une des spécificités de l'entremonde, mais qui sera aussi dans la marche qu'on va proposer, c'est qu'en fait, c'est comme si ça jouait au fait qu'il y a un rituel qui serait déjà préexistant, comme si on était dans une société avec un rituel, un rite de passage ou un rite de ressourcement qui existerait déjà. Et les participants, en fait, viennent pour prendre part à ce rituel. et donc ils seront complètement accompagnés du début à la fin, comme s'ils entraient dans un processus pendant lequel on allait les guider, et comme un processus presque initiatique ou de ressourcement. Et en fait, ils seront simplement guidés à travers ça.
Et dont ils sortiront certainement avec un état, j'allais dire, état de conscience modifié, peut-être pas tout à fait, mais...
On l'espère, en tout cas, une nourriture de sensible et une expérience qu'ils auront traversée. En tout cas, on travaille vraiment sur une forme de dispositif à cet endroit-là. Et ensuite, le samedi, on a les derniers ateliers, le matin à 9h, pour ceux qui sont matinaux et qui ont du courage. 9h au parc Marliave, donc dans cette enclave dont on a parlé au sein du quartier Chaurier-Béria. Là, comme un arbre dans la ville, un peu du même nom que cette chanson de Maxime Le Forestier. Un atelier pour essayer de se dire, à partir du paradoxe un peu grenoblois, de se dire on est entouré de montagnes et pourtant dans la ville on peut se sentir si proche et à la fois si loin des montagnes et de la nature. Et du coup, à l'intérieur de cette enclave un peu calme du parc Marliave, comment est-ce qu'à l'intérieur de cet endroit-là, on peut essayer de se reconnecter à la fois à la terre, puisque c'est un des rares endroits en ville où on trouve de la terre sous nos pieds, effectivement, et à la fois se connecter à la terre, se connecter aux montagnes, donc les Belles Donnes, Chartreuse, Vercors, qu'on voit depuis le parc, et se connecter aux arbres qui sont là. Donc comment est-ce que cet espace peut être un endroit de reconnexion à la nature, au sein de la ville.
Et tu parlais, je crois que tu vas en parler ensuite, d'une déambulation avec...
Oui, alors la déambulation, il y a juste un dernier atelier avant elle, deux derniers ateliers, je te les présente vite fait. À 10h, on a un atelier qui s'appelle Étalage de mots, donc c'est un atelier d'écriture, comme son nom le laisse penser, qui se déroulera dans le marché Saint-Bruno. Et donc, où là, pour le coup, c'est partagé, en fait, à la fois l'ambiance d'un marché, qu'est-ce que c'est que d'être en marché avec un café, avec des croissants, avec quelque chose à manger, donc profiter de cette ambiance-là, et à la fois faire un travail d'écriture dans ce lieu sur comment est-ce qu'on peut écrire sur les rituels des gens qui habitent le marché, ou enfin, qui habitent le marché, disons, qui traversent qui le marché, côtoie, ouais. Qui le côtoient, etc. Donc à la fois l'écriture, elle reprend le rituel du café croissant, et à la fois elle porte sur les rituels des habitants du quartier, donc on partage un peu le processus de création qu'on a nous-mêmes suivi. Et après, il y a un dernier atelier au Théâtre de Poche qui s'appelle À ta manière, qui lui se destine plus à des gens qui auraient des pratiques physiques, disons comme le yoga ou comme le qigong, qui auraient des héritages de pratiques un peu traditionnelles comme ça, dans lesquelles on apprend des enchaînements. Et À ta manière, ça pose la question de quand on a un rituel pour prendre soin de soi, comment est-ce qu'on l'adapte en fait? Comment est-ce qu'un rituel, c'est pas quelque chose qui peut nous être donné tel quel ou prête à être expérimenté, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut réadapter un minimum à la personne qui va le vivre. À ta manière, ça essaye de réfléchir un peu à cette chose-là.
Et à une situation, à un contexte aussi de pratique.
Exactement. Là, le cas, c'est une participante, une personne qui était avec nous pendant tout le projet, qui a une pratique de yoga, mais qu'elle a elle-même mixée avec des pratiques de danse, avec des pratiques d'ailleurs, qui va proposer son propre enchaînement. Et ensuite, à partir de cet enchaînement, la question sera... Qu'est-ce qui vous convient ou qu'est-ce que vous changeriez à l'intérieur de cette routine qu'on vous propose? Et comment est-ce que vous, à l'écoute de votre corps, vous allez pouvoir construire un rituel qui vous ressemble en quelque sorte ou qui soit proche de vos besoins, de votre propre corps, etc. Voilà. Ensuite, on aura la déambulation l'après-midi, 14h et pas 14h et 16h30, comme c'est indiqué dans le programme. Il y a un léger changement. D'accord. Donc la déambulation qui s'appelle Résurgence, qui démarre à 14h, rendez-vous au Théâtre de Poche. Donc ça, c'est une marche en fait, qu'on va entreprendre ensemble dans le quartier Chaurier-Béria. À l'aide de, pendant cette marche, on va transporter des mâts en bois qui font 2,80 m. Et à travers ces mâts, avec ces mâts, on va les guider dans le quartier et les amener pour finalement construire, faire une espèce de construction, un peu comme un totem. Et ce totem, ce sera un peu pour nous comme une offrande ou ce qui va catalyser l'attention qu'on pourrait porter au quartier lui-même. Donc quelque chose pour centraliser un peu à la fois tout ce que ce quartier ou ce territoire peut représenter pour nous et à la fois tout ce qu'on peut lui souhaiter pour l'avenir. Donc il portera même physiquement les traces de tout ce que les gens qui vont le porter pensent de lui et lui souhaitent pour l'avenir.
Donc une belle conclusion de ces 3 jours d'expérience.
C'est ça. Sachant que dans cette marche, en fait, il y aura aussi de la musique, il y aura aussi d'autres choses. C'est une marche qui est accessible à tout le monde. Le quartier, la trajectoire en elle-même n'est pas très longue. Elle mêle à la fois le caractère spectaculaire ou un peu spectaculaire avec ces mâts qui vont se construire et à la fois la dimension un peu expérientielle parce que ne serait-ce que le fait de marcher collectivement ensemble dans un quartier, ça c'est une expérience de la marche collective qui là n'est pas saisie dans le contexte de la manifestation en elle-même ou du carnaval, etc. On les déplace un peu pour réfléchir à ce truc de qu'est-ce que c'est que de marcher collectivement, quelle attention naît, comment est-ce qu'une attention collective au groupe émerge et à la fois comment est-ce que cette attention collective se déporte ensuite sur le quartier. Sachant que nous, quand on parle de territoire dans cette déambulation, c'est à des échelles variables. C'est-à-dire que si les gens, le territoire qu'ils habitent, c'est le quartier, ben, ils vont parler du quartier, ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent du quartier. Si pour certains, quand on leur dit le territoire que vous habitez, c'est ah ben, la montagne, parce que je suis grenoblois, mais je suis toujours dans la montagne, alors le territoire auquel on peut souhaiter quelque chose, c'est l'environnement grenoblois, les montagnes comprises. Et si pour quelqu'un, il se dit, mais moi j'ai envie de souhaiter quelque chose à la terre, parce que je me sens d'abord terrien avant de me sentir habitant de Churyéberia, et bien il va souhaiter quelque chose à la terre. Et le totem va en quelque sorte porter un espoir ou une sensation vis-à-vis de ce territoire global qu'est la terre. Chacun sera libre de l'échelle qu'il a envie de choisir.
Eh bien, justement, on attend avec impatience cette célébration. Tu voulais ajouter un mot, excuse-moi, vas-y.
Un dernier point sur le dernier événement, en fait, oui. De tout ce long temps fort, qui est le ciné-débat qu'on va proposer soir, en fait, le samedi soir à 20h au Théâtre de Poche. Le ciné-débat, donc, on va avoir une projection d'un film qui s'appelle Alberi, d'un réalisateur italien qui s'appelle Fra Martino. Alberi, c'est un film ce serait beaucoup dire de lui, mais en tout cas qui me donne à voir et à entendre un rituel qui se passe dans le sud de l'Italie et qui parle de la relation entre une communauté d'habitants et la forêt qui entoure ce village. Et donc le rituel, c'est encore une fois une forme de connexion entre des habitants et un territoire, ici le territoire forestier, le territoire du sud de l'Italie qu'ils habitent, et qui est lui-même épris, si vous voulez, en quelque sorte d'un héritage à la fois païen et à la fois plus ou moins religieux. Donc il y a cette dimension religieuse qui apparaît un tout petit peu. Et à partir de ce film-là, nous, il y aura un débat, et bien sûr une collation, de quoi manger, de la boisson, mais une discussion qui partira dans deux directions, à la fois la dimension politique du rituel, dans quelle mesure est-ce qu'un rituel, c'est quelque chose qui normalise un peu les populations autour d'un événement commun. Et à la fois, comment est-ce que c'est un espace aussi de résistance ou un espace dans lequel on vient mobiliser des forces qui, justement, ne sont pas normées, forces de la nature ou etc. Et ensuite, la dimension écologique du rituel, en quoi est-ce qu'un rituel s'est toujours connecté à un territoire.
Et donc, justement, j'avais un peu perçu cette dimension de sacralisation dans les propos que tu tenais autour du mât et du totem, etc. Donc, pour tous les gens qui sont intéressés par le rapport que peut entretenir le rituel avec le sacré et avec un territoire à toutes les échelles. Vous l'aurez compris, il faut aller se rendre et participer à toutes les propositions auxquelles vous invite le collectif Equinox pour à partir de jeudi et jusqu'à samedi dans le quartier Churyéberia. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique d'Hugo. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, encore une fois, de sport de combat ?
Non, pas vraiment en fait. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'une discipline à la croisée de l'art et du sport, en tout cas selon moi. Ça dépend des points de vue, hein, en toute honnêteté, mais je veux casser les clichés et déboulonner les idées reçues à propos du bodybuilding. Ah, ça peut paraître surprenant, mais voilà, on va essayer.
Ah bah en effet, c'est vrai qu'à première vue, c'est pas un sport classique et encore moins un art au sens attendu et strict du terme.
Ah ben ça c'est sûr, et pour comprendre, je vous propose déjà de répondre à une simple question: qu'est-ce que le bodybuilding? Alors pour décrire cette pratique, la légende du bodybuilding, Lee Labrada, explique que cette activité est une prouesse physique, mais qui n'est pas aussi compétitive que les autres sports, les sports traditionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du même genre de compétition en fait. Les bodybuilders, effectivement, on va pas les voir s'affronter sur un terrain de foot, sur une piste d'athlétisme ou sur un ring de boxe en l'occurrence. Non, là c'est la scène. Et à l'instar des concours de beauté, l'objectif est de montrer la saillance des muscles, le résultat de milliers d'heures de travail pour atteindre ce qui, selon les participants, est la perfection physique au masculin.
Mais alors, le bodybuilding, c'est juste un concours de beauté ?
On va pas se mentir, le concours de beauté, comme tu dis, ça en fait partie. Mais c'est la partie immergée de l'iceberg. Parce que ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit à la fin. Un peu comme une voiture quand elle sort de l'usine, si vous voulez. Vous ne voyez pas le produit quand il est fabriqué, mais plus le produit final. Ben là, c'est pareil. Et c'est bien dommage, car à cause de ça, beaucoup de personnes ont des a priori concernant le bodybuilding. Ils passent leur vie dans les salles de sport, par exemple. Ils n'ont rien dans le cerveau. Les bodybuilders sont des monstres narcissiques qui n'aiment que leur reflet dans la glace. Bah, à ce propos d'ailleurs, hein, s'il y a des grandes glaces dans les salles de sport, c'est avant tout pour que les pratiquants puissent vérifier s'ils font l'exercice correctement et un peu moins par narcissisme même, évidemment, si ça existe un petit peu.
Oui, mais soulever des poids, est-ce que c'est vraiment une performance artistique? Et puis, tout ça, est-ce que c'est vraiment de l'art, se montrer à moitié nu devant un jury?
Bon. Alors, c'est justifié, hein. Tout ce que tu dis est justifié, mais j'essaye de voir les choses sous un autre angle. La dimension artistique, en fait, elle réside peut-être plutôt dans la valorisation du corps et le fait d'être capable de le modeler à sa guise. Puisque, si on regarde un peu en arrière, l'art a longtemps plébiscité le corps d'Apollon, un peu les Grecs, les Romains, taillés en V, les muscles saillants, des gros abdos, etc. En fait, c'est ni plus ni moins que de la sculpture, si vous voulez, le bodybuilding, directement sur l'homme, qui a été rendu populaire dans les années 70 par le célèbre Arnold Schwarzenegger, cette fois Mister Olympia, qui est l'équivalent en fait de champion du monde de bodybuilding. En fait, le bodybuilding, si vous voulez, ben, on le pratique tous, à plus ou moins grande échelle, évidemment. Mais l'adolescent qui fait ses premiers pas dans la muscu, lui, qui veut ressembler à Hulk, il pratique un peu le bodybuilding en quelque sorte. La mère de famille, qui juste après l'accouchement veut se remettre en forme, elle pratique un petit peu, en fait, le bodybuilding. Et la seule différence, c'est que la vie d'un bodybuilder professionnel ressemble un peu plus à celle d'un athlète que les personnes qui s'entretiennent tous les jours.
Mais on pourrait croire que pour être un athlète, il faut participer à des compétitions sportives, ce que ne font pas les bodybuilders.
Oui, on est d'accord, mais je vous propose une autre lecture, encore une fois. On est d'accord, tous les bodybuilders ne sont pas de très bons athlètes. En revanche, la majorité des bons athlètes, eux, sont des bodybuilders. En judo, par exemple, Teddy Riner a dû gagner en muscles pour devenir multiple fois champion du monde et champion olympique. En boxe, Tony Yoka a lui aussi dû gagner en muscles pour devenir professionnel. Et en football, on doit aussi gagner en muscles un petit peu pour pouvoir résister au duel physique. Et alors que dire des rugbymen qui, pour certains, la case musculation, elle est obligatoire, comme le centre du RC Toulon, Mathieu Bastaro, ou encore l'anglais demi d'ouverture, Johnny Wilkinson, bien connu pour ses transformations.
Et bien du coup, la situation du bodybuilding ne semble pas évidente à trancher, donc qu'est-ce que tu conclurais?
Ben moi, je dirais que le bodybuilding, c'est un sport pratiqué à l'insu de nombreuses personnes. En fait, certains l'appellent musculation, d'autres préparation physique. Mais la seule idée que certaines personnes soient prêtes à dédier leur vie à atteindre un idéal de physique, bah c'est déjà quand même remarquable. Parce que cet idéal, il faut le rappeler, a été fixé par les arts il y a des siècles, mais par la suite a été dénigré en étant repris par la société pour devenir une norme standard de beauté. Et comme tout sport ou toute forme d'arme, le bodybuilding demande de l'implication, des sacrifices et du travail. Peu importe en fait qu'on apprécie cette discipline ou non, qu'on l'adule, qu'on la raille, qu'on la soutienne ou qu'on la conspue, eh ben, elle mérite quand même au moins d'être respectée pour les valeurs de fond qu'elle défend, la persévérance et le dépassement de soi en lieu et place de l'image superficielle dont elle est tristement affublée par certains détracteurs qui, eux, ont omis d'examiner l'histoire et ses particularités.
Bah écoute, merci Hugo, j'espère que t'as convaincu ceux de nos auditeurs qui avaient encore des préjugés et des a priori sur le bodybuilding. Et précipitez-vous dans les salles de sport si le cœur vous en dit.
On a 30 secondes avant la voix qui crie dans le désert, le temps passe.
Voilà, justement, je souhaitais remercier tous les participants à l'émission et notamment Martin donc, du collectif Equinox. Merci d'être venu.
Merci.
Bonne manifestation et j'espère que ça se passera bien. Merci à Kilian d'avoir été avec nous en studio.
Mais de rien.
Merci Marty à la technique.
Mais de rien.
Et retrouvez cette émission en podcast demain à 8h.
Sur campusgrenoble.org, bien entendu.
Et en direct à l'antenne, pardon. En direct à l'antenne demain à 8h et en podcast sur campusgrenoble.org dès que possible, très rapidement. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à très vite dans l'apérophonie. Au revoir.